Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rapprenant ou en vous rappelant ou en vous ce que vous voulez que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent maintenant sur absolument ou presque tous les supports. Ça, je ne le fais pas à chaque fois, mais je vous rappelle que notre générique est bien évidemment une musique de film, ça vous l'auriez deviné, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962. Ça s'appelait Diamant sur canapé, en anglais Breakfast at Tiffany's, et cette petite merveille avait dans les rôles principaux Audrey Hepburn et George Peabody, et à la musique, eh bien, Henry Mancini, notre cher Henry Mancini qui nous manque tellement pour ce Moon River qui est devenu depuis un standard du jazz. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons par contre retraverser l'Atlantique de notre côté, puisque nous allons nous intéresser à la carrière d'un compositeur italien, à vrai dire assez peu connu. Certes, ce n'est ni Nino Rota, ni Ennio Morricone, mais Angelo Francesco Lavagnino, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et bien, ma foi, pendant les presque 80 ans de sa vie, aura eu l'occasion d'être un de ces compositeurs du cinéma italien qui l'aura accompagné des années 50 jusqu'aux années, à vrai dire, plutôt 70 que 80, pour une carrière, je serais un peu malvenu de vous dire combien de films il a orchestrés pour lesquels il a composé, mais ma foi, ma petite fiche en comporte là à vue de nez au moins 150. Sans avoir donc la célébrité d'Ennio Morricone, il en a par contre la prolixité. Sur l'homme lui-même, né en 1909 à Gênes, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a fait des études de violon au conservatoire de Milan pendant les années 20 et 30. Qu'en 1939, il compose un opéra qui s'appelle Malafonte, mais je n'en sais pas plus et pas plus que vous sur la question, et qu'après avoir donc tenté une carrière dans ce qu'on appelle la musique pure, c'est Ennio Morricone qui appelle ça étonnamment la musique pure, eh bien, il s'oriente vers la musique de cinéma et, ma foi, il y sera suffisamment connu pour en faire le reste de sa carrière, puisque sa première partition, eh bien, il l'écrit en 1948 pour un film intitulé Natale al Campo, alors 119, je ne saurais pas vous le dire en italien, un film de Pietro Franceschi, duquel le film, comme le réalisateur, je l'avoue, j'ignore tout. Ce qui va nous amener à sauter là comme ça d'un seul 10 années de sa carrière pour écouter sans plus attendre un extrait de la musique d'un film tourné en 1958, une production, plutôt une coproduction franco-italo-américaine. C'est une époque où le cinéma américain investit beaucoup les studios italiens pour des raisons essentiellement financières. C'est moins cher de tourner en Italie, c'est pour ça que beaucoup de péplums, comme Quo Vadis par exemple, seront essentiellement tournés en Italie pendant les années 60, ou en Espagne aussi, comme la chute de l'Empire romain. Et donc c'est le cas de La Maya Nue, un film tourné par Henry Koster, avec dans le rôle principal, c'est mieux, la divine Ava Gardner. J'ai été assez bavard, on dira quelques mots du film, mais ce sera pour le désannoncement, comme on dit dans nos métiers, le tout dans 24 notes secondes. un extrait signé Francesco Lavagnino de la bande originale de La Maya Nue, un film de Henri Coster tourné en 1958, qui était, une biographie du peintre Goya, puisque La Maya Nue, c'est un des tableaux les plus célèbres de Goya, et le film racontait en fait les amours et plus si affinité de Goya, interprété dans le film par Anthony Franciosa, qui est espagnol comme moi, je suis serbo-croate, et d'Ava Gardner, qui elle-même est espagnole comme moi, je suis basque, qui interprétait la Duchesse d'Albe, donc en l'espèce à la fois mécène, modèle et maîtresse du dit Francisco Goya. Alors Ava Gardner a laissé dans ses mémoires quelques souvenirs assez savoureux sur le film, qu'elle qualifie de biographie assez insipide du grand peintre espagnol Francisco Goya, je cite. Elle dit que son partenaire était un grand disciple de la méthode d'acteur de Stanislavski, c'est-à-dire que le gars était dans son rôle, très pénétré, façon Marlon Brando, si vous voyez, ce qui avait le don d'horripiler Miss Ava, qui ne retient de ce tournage que deux bons souvenirs. D'abord que et elle a tout à fait raison, que la photographie du film était signée de Giuseppe Rotuno, qui dans les années qui suivirent devint l'un des plus grands directeur de la photographie du cinéma italien puis américain, sauf erreur de ma part. Et puis surtout que La Maya Nue, c'était le système des studios encore dans les années 60, c'était le dernier film qu'elle devait à la MGM, c'est-à-dire que quasiment ce n'est pas elle qui avait le choix de ses tournages, et qu'après ça, elle serait libre, ma foi, de sa liberté. Elle a fait ce qu'elle a voulu, peut-être pas cinématographiquement parlant, ce que nous aurions voulu pour une si belle créature, mais ma foi, c'est ça la grandeur du cinéma. Dernière petite chose pour La Maya Nue, pour signer que dans ce film, Gino Cervi jouait le rôle du roi Charles IV d'Espagne. Gino Cervi, peut-être que le nom ne vous dira rien, mais c'est Pépone. Mais oui, le maire Pépone dans la série des Don Camillo, avec, comment s'appelait cet acteur français qui avait un si grand rire déjà? Mais oui, évidemment, Fernandel. Voilà, maintenant on va écouter un extrait d'une autre bande originale d'un film qui lui aussi est typique de ces années 60, puisqu'il s'agit d'un péplum. Les années 60, c'est le premier âge d'or du péplum. Alors il y avait les péplums américains tournés en Italie comme Quo Vadis, déjà évoqué, ou La Chute de l'Empire romain tournée en Espagne, lui aussi déjà évoqué. Mais, et ça c'était quand même les plus goûteux, il y avait aussi les péplums directement italiens avec des acteurs qui soit étaient étrangers et en fin de carrière, soit étaient italiens et en début de carrière, mais prenaient des noms d'acteurs étrangers en fin de carrière, ce qui faisait un gloubi-boulga assez savoureux. C'est peu dire, et c'est même un euphémisme de dire que les moyens octroyés à ces films n'étaient sans commune mesure avec ceux de Ben-Hur, Quo Vadis et autres. Du coup, on avait parfois des impressions cheap. C'est peu dire que les acteurs de premier plan étaient parfois incarnés par Monsieur Univers, dont, comment dire, le talent d'acteur n'était peut-être pas la chose la plus partagée au monde. Mais maintenant, évidemment, ces films, ils ont un statut culte. Et on va donc écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1959 et intitulé Les derniers jours de Pompéi. Et après, mais après seulement, je vous le désannoncerai dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà l'étrange musique de Francesco Lavagnino pour la bande originale des Derniers Jours de Pompéi, un film tourné en 1959 qui était loin d'être le premier consacré à ce sujet. Et c'était même le huitième à s'inspirer du roman d'Edward de Bulwer Lytton, publié en 1834 et qui racontait à sa façon les derniers jours de Pompéi, en y mettant notamment des chrétiens dans un cirque avec des lions, évidemment, des chrétiens dans un cirque sans lion, ça ne se pose pas, alors que la présence de chrétiens à Pompéi est tout sauf avérée. Ma foi, le roman, tout comme le cinéma, prend ses aises. Le film, c'est vraiment pour la curiosité l'anecdote que je vous le cite, bénéficiait d'un scénario écrit par des gens qui devinrent par la suite relativement célèbres, Sergio Corbucci, Duccio Tessari, et puis surtout Sergio Leone qui reprit même le tournage après que Mario Bonnard, le réalisateur initial, tomba malade. Dans les rôles principaux, je l'ai déjà évoqué avant d'écouter cet extrait, eh bien, il y avait un monsieur qui était le Schwarzenegger de l'époque, on va dire, Steve Reeves, qui jouait le rôle d'un centurion romain, bien sûr, qui avait connu la célébrité deux ans plus tôt avec Hercule, où il jouait évidemment le rôle principal en 1958, puis ensuite Hercule Unchained en 1959, là encore avec des titres américains, c'est rigolo, et qui fut casté, comme l'on dit, deux semaines avant le début du tournage. Ça fait quand même relativement court pour un tournage. Du coup, on réécrit le scénario pour lui, pour rajouter des scènes de cascade, de combat avec un crocodile, un lion, etc. Et le pauvre se blessa pendant le tournage, ce qui compromit sa carrière et ce qui mit même fin à sa carrière. Quant à l'héroïne du film, la délicieuse Christine Kaufmann, eh bien, figurez-vous qu'elle avait 14 ans à l'époque du tournage. Là, on est proche du délit de pédophilie, mais dans les années 60, ça ne s'appelait pas comme ça. Voilà, on va enchaîner avec donc un autre film dont la musique était à nouveau signée de Francesco Lavagnino. Le film, il s'appelle The Wonders of Aladdin. J'avoue que je n'ai pas réussi à trouver un titre français, ce qui peut-être voudrait signifier que le film n'est même pas sorti en France. Une comédie franco, pourtant italo-américaine, une fois de plus, avec Donald O'Connor dans le rôle d'Aladin. Alors là encore, on est dans la quatrième dimension, puisque Donald O'Connor, vous en souviendrez peut-être, mais c'était l'un des interprètes principaux de Chantons sous la pluie de Stanley Donen, donc typiquement l'acteur américain de base qui joue donc le merveilleux Aladdin dans un film dirigé par Henry Levin. À ses côtés, il y a notamment, et on se demande bien ce qu'il vient de faire dans cette galère, Vittorio De Sica, enfin si, l'argent n'y est sans doute pas étranger, Vittorio De Sica ou Michel Mercier et Terence Hill. Ben oui, comment ça j'allais oublier Terence Hill dans le rôle de Prince Moluc, Terence Hill au début de sa carrière, avant qu'il tourne ses chefs-d'œuvre avec Bud Spencer, que personne n'aura jamais oublié. Allez, plutôt que de délirer, on écoute un extrait de cette bande originale, Wonders of Aladdin, Francesco Lavagnino dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale vaguement orientalisante de The Wonders of Aladdin, un film, Aladdin c'est mieux, un film d'Henri Lévy, une musique de Francesco Lavagnino, notre héros de ce jour. Et on va continuer, allez, en enchaînant presque sans reprendre son souffle, avec un extrait de la bande originale d'un film tourné toujours en 1961. Alors cette fois-ci, il est espagnolo, italiano, franchono, français. Un film dirigé par notre français de base, Christian Jacques, et avec dans le rôle principal, eh bien, une italienne de base, Sophia Loren. En 1961, Sophia était plutôt au début de sa carrière et elle interprétait dans ce film le rôle de Madame Sans Gêne, une figure historique bien connue, quoique largement exagérée. En l'espèce, Catherine Hübscher, née quelque part dans le Haut-Rhin en 1753, une lingère qui avait l'habitude de nettoyer les vêtements du futur Napoléon, à l'époque Bonaparte, et qui du coup sera ensuite élevée par le dit Napoléon Bonaparte, devenu empereur dans la noblesse d'Empire, comme on dit un peu, de façon un peu méprisante quand on est de la vraie noblesse, celle des Bourbons, et elle obtiendra le surnom de Madame Sans Gêne, parce que, comme son surnom l'indique assez, eh bien, ma foi, ses manières n'étaient pas forcément à l'aune de la gloire impériale. Et dans les années, fin du 19e siècle, Victorien Sardou et Émile Moreau, fils de l'histoire de Catherine Hübscher, une pièce à succès qui fut tournée à plusieurs reprises au cinéma, d'abord qui fut montée au théâtre à plusieurs reprises avec succès, et qui fut tournée à plusieurs reprises au cinéma. Ce fut le cas donc en 1961, aux côtés de Sophia Loren, il y avait beaucoup d'acteurs français et italiens. C'était une époque où on faisait aussi beaucoup ça, des coproductions franco-italiennes à tout point de vue, et notamment Robert Hossein, lui aussi plutôt au début de sa carrière, qui n'était pas encore aux côtés de Michel Mercier, déjà cité dans Angélique. Michel, on t'aime. Allez, on écoute un extrait de la bande originale. Madame Sans Gêne, mais dans 24 notes, seconde. Mais c'est délicieux, ma foi, un extrait de la bande originale de Madame Sans Gêne, musique de Francesco Lavagnino avec Sophia Loren dans le rôle de Madame Sans Gêne. Sophia, on t'aime. Allez, on va passer à autre chose et à écouter encore de la musique, après tout. C'est ça le but de 24 notes secondes, en l'espèce d'un péplum, là, à nouveau. un péplum tourné en 1962. On est resté dans les années 60, même si la carrière de Franco Lavagnino s'est étendue bien au-delà. Ma foi, ce sont des choix que j'assume. On va écouter donc un extrait de la bande originale de Ponce Pilate. Alors, un film dont j'espère le titre dit assez quel était le sujet. Et dans ce film, eh bien, Ponce Pilate était joué par Jean Marais. Alors, c'est peut-être pas le choix le plus évident qu'on aurait pu faire. Jean Marais tournant qui plus est en anglais, sous la direction de Irving Rapper, même si le film était tourné en Italie. Ma foi, le résultat n'était peut-être pas transcendant. Il y avait de solides second rôles, comme John Drew Barrymore, qui jouait à la fois, alors ça c'est une curiosité assez étonnante, le rôle de Judas et de Jésus. Quand même un peu un challenge, même si on ne voyait jamais Jésus, pour tout vous dire. Et puis, il y avait Basil Rathbone, dont le nom ne vous dira pas grand-chose, mais qui fut un très grand méchant du cinéma américain des années 30-40. Bref, tous ces gens-là, peut-être pas Jean Marais, mais tous ces gens-là étaient plutôt sur le retour. Pendant le tournage, Jean Cocteau suggéra, qui était le compagnon de Jean Marais à l'époque, lui suggéra peut-être de changer l'histoire. Je cite, « Peut-être pourras-tu ne pas condamner le Christ ni t'en laver les mains. Essaie, puisque le passé, le présent et l'avenir n'existent pas. » Oui, c'est des paroles de poète, ma foi, au cinéma. Ça le fait un peu moins. Et finalement, on en est resté à l'histoire où Jésus meurt à la fin. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, Ponce Pilate, dans 24 notes secondes. Voilà le genre de musique que l'on pouvait attendre pour une biographie, si l'on veut, de Ponce Pilate, une musique de Angelo Francesco Lavagnino, qui nous a quittés le 21 août 1987. Ça fait donc déjà bien des années, après une carrière des plus remplies. Il avait composé sa dernière musique de film, si j'arrive à retrouver ma petite fiche, évidemment, en 1977. Et on va se quitter avec la bande originale d'un film tourné, lui, en 1965. C'était un western spaghetti. Il y en avait beaucoup, même si, comme vous le savez sans doute, les western spaghetti étaient pour la plupart tournés en Espagne. Donc, ça aurait plutôt dû être un paella western, mais ça faisait peut-être moins bien que spaghetti au western. Alors, ça s'appelle L'homme au pistolet d'or, mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une histoire de James Bond, parfois. Il y a des titres comme ça qu'on réutilise plusieurs fois. J'avoue que j'ignore absolument tout des acteurs principaux du dit film, que je ne l'ai pas vu, que je ne sais même pas qui est réalisateur, bref, c'est la dèche totale. Mais je sais que le compositeur de la musique, c'est Francesco Lavagnino, et donc je vous laisse avec lui, L'homme au pistolet d'or, dans mes 14 secondes. Ben voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci. See you et bye bye.